So now that's the segment of the Montreal Music Rap. We'll talk first about a rally that was happening in Sarnia Saturday against asbestos, because people were killed by this product there, and in support they was doing this demonstration. And then we'll listen from Tobin Black from the toronto.musicrap.ca, and we'll listen this right now on...
My name is Leah Nielsen.
My name is Stacey Catron.
And could you tell us about the event today?
Yeah, we had a walk to remember the victims of asbestos, and we had a phenomenal turnout in Sarnia. Crowd estimates were 500 to 700 people, and it was a blustery, cold day.
We had speeches from the mayor, the head of OCOW, which is for occupational workers. We had Linda Reinstein fly in from California. She's the president and co-founder of Asbestos Disease Awareness Organization. And they talked about how Canada is exporting asbestos to the developing world, especially places like India, where the workers are unprotected. And years from now, develop mesothelioma, and actually are already developing it from working with it.
I think the most special speaker that we had was Bruce Bradshaw, and he was actually a co-worker of my dad's many years ago at Dow Chemical, and he actually has mesothelioma right now. He got a standing ovation today as he described kind of what he's going through and told Prime Minister Harper, he wished he could stand eye to eye and toe to toe with him and do Rick Mercer's rant to him about asbestos. It was very touching.
So you two basically got this event together. You got it rolling, is how I understand it.
Yeah, actually, it was my sister who called me in May and said it's time to do a walk in remembrance of Dad. The political climate is just right.
We lost our dad 3.5 years ago to mesothelioma, and we were furious that Prime Minister Harper was campaigning in Asbestos Quebec and standing beside the asbestos industry saying that they would support them no matter what, and then blocked the Rotterdam Convention, which would put a labeling asbestos as a hazardous material.
And I think the straw that broke the camel's back was Harper campaigning in Asbestos Quebec. That's what really got us.
So what were your goals in working on this event?
I think...
Banning asbestos.
Yeah, the ultimate goal is to ban asbestos, but I think a secondary goal is just to educate people, because people just don't have any idea what the Canadian government is doing. And to be honest, I didn't know until my dad was diagnosed with mesothelioma, but we've spent the last 3.5 years researching more about this fibrous mineral that prematurely took the life of our father.
My name is Zach Nichols. I'm a resident of Sarnia, and you could say I'm an activist for human rights issues around the Chemical Valley here in Sarnia-Lambton.
And about the rally today about asbestos, could you tell us what the significance of that was from your point of view as someone who's lived here for a long time?
I think one thing about the rally today that was really important was it brought out so many people from the community. A lot of the people who are there today are people who have lost someone due to asbestos-related illness or who are currently dealing with an illness. One of the speakers today is someone who is dying from mesothelioma, and so he had a really important message. And myself, personally, I've never lost someone that I can conclusively say died due to asbestos-related illness, but I never met my grandfather. He worked at General Electric in Peterborough, and he worked with asbestos, but we couldn't find enough years that he worked directly with the asbestos to make a proper claim. It's not to say that he wasn't exposed to it long enough. It's just we couldn't prove it. So that's somewhat significant, because there is a saying around Sarnia-Lambton that there are a generation of children who have grown up never knowing their grandfathers because there has been so much illness related to asbestos. And not only are they missing their grandfathers, obviously, families are missing their husbands, their fathers. And also, we have a lot of these men were union leaders. They were civic leaders. And so the community has lost out, too, with their illness. The significance of today's event was that it brought people from all over North America to get together and to recognize just how serious this asbestos issue is. Obviously, one of the main concerns is that Canada continues to export asbestos to third world nations, despite knowing exactly how harmful it is and knowing that there is no safe handling of asbestos. The government will say that there are safe practices, but there aren't. And the people who are handling it in the third world nations don't have the equipment they need. So another thing, too, is that today's event seemed to also bring out members of the community who haven't necessarily lost someone, but who are just concerned and who can see how significant the issue is, and that was really important. Sarnia is probably the hardest hit city in Canada, certainly in Ontario, for asbestos-related illness. One thing that is interesting is that we are federally a conservative riding, and our member of parliament has been largely quiet about the issue. She didn't attend the demonstration today. I'm not sure exactly why that is, but she's been largely silent. And, you know, that brings a lot of frustration from people here who feel that they're not only being ignored by Ottawa, but they're also now being ignored by their local member.
That was about the asbestos in Sarnia. You can find on Google asbestos in Sarnia, and you will find a lot of information about in Sarnia and about the international context. We are right now with Maya Robengali. Are you there, Maya?
Yes, hello.
Hello. So you are part of Missing Justice?
Yes.
And you're organizing not a rally, but a kind of rally, a vigil tonight for the missing and murdered women.
Exactly. Tonight is the 6th annual Memorial March and Vigil for Missing and Murdered Native Women, the Sisters in Spirit event. And it's the 4th one happening in Montreal. And it's happening actually really soon, in less than an hour, at 6 p.m. at Cabot Square, which is at Atwater and St. Catherine Street, just outside of Atwater Metro. And we're got an amazing lineup of really powerful speakers, singers, drummers, and it'll be not to be missed. So I encourage everybody to come out and show their support and march alongside people you can learn a lot from.
And a lot of going on about that right now. They was talking about the commission they was supposed to do in BC, but a lot of people are against this commission right now because the BC government refused to pay people to participate, to help them to participate to this commission.
Okay, I don't actually know the details about the commission in BC. I've heard mixed reviews about how useful people think it will be. I'm sure that there are. I mean, I'm personally just pretty sure that there's always certain issues when pros and cons, if you will, for any sort of government-funded program or project related to this issue, because the government is definitely one of the perpetuators of the problem to begin with. So I think it's complex, and I'm not surprised to hear that that there's some issues with that. Hopefully, there are also some good things coming out of it. I'm not sure.
Actually, the people can go and participate to this march tonight. What else they can do also to support the fight against this situation, this very, very...
the group I'm a part of, Missing Justice, which is short for Justice for Missing and Murdered Indigenous Women, is a solidarity collective here in Montreal. We've been around since 2009. And we organize a lot of popular education events, 2 annual marches, the occasional direct action, film screenings, you name it. We're open to all different sorts of organizing tactics. And we're open to everybody. We have meetings once a week. And we organize in consultation and collaboration with First Nations communities, individuals, families. And we welcome anybody who's interested in getting involved and learning about the issue and in helping organize events in the future to come to our meetings. Our meeting times and places are generally posted on our website at missingjustice.ca. We usually meet on Wednesdays or Thursdays at 5:30 p.m. at 1500 de Maisonneuve, Suite 404. But those times are subject to change, so the website is the best bet for that.
And the last question, what is the 2110 Center for Gender Advocacy?
The 2110, rather. A lot of people get confused with the 2010, but it's the 2110. It's where I work, actually, and it's the Center for Gender Advocacy affiliated with Concordia University, and Missing Justice is one of the projects of the center. So the center does other things as well related to gender advocacy and social justice movements. A lot of trans rights advocacy, reproductive justice, a lot of other projects. But Missing Justice is one of the largest ones at the moment. And 2110 is just the name of the first address. We have two locations. One is 2110 Mackay, and the other is 1500 Demisenev.
Okay, so thank you, Maya, and let you go to this march and vigil.
Thank you very much.
Thanks.
Bye.
Bye.
Justice for the victims de bavure policière.
Justice for the victims of police killings. A vigil, demonstration, and march. Saturday, October 22nd, 1 p.m.
Rendez-vous, Maître Laurier, Sortie Saint-Joseph. Événements familiaux, bienvenue à tous et toutes.
The families of people killed by the police, their friends, and their allies are organizing the second annual commemorative vigil in March to remember those who have lost their lives at the hands of the police.
L'objectif de cette marche est de commémorer les victimes d'abus et de violences policières et de soutenir leurs familles.
Organized by the Justice for Victims of Police Killings Coalition, comprised of the family, friends, and allies of Anas Benes,
Claudio Castangueta,
Ben Matson,
Kilem Registre,
Freddy Villanueva,
and Gladys Tolley. Encore, c'est le 22 octobre à 13h, Metro Laurier. Info, 22octobre.net.
This is a CQT co-presentation.
You're knocking on the right door. If you're looking for something, well, refreshing, you're tuned in to the right station. You're listening to the coolest station in Montreal, 90.3 FM on your dial. The alternative station, the one that gives you a choice and a voice. CKUT, stay tuned.
So, welcome back on CKUT 90.3 FM in Montreal. We're now interview Jacques de la Maison Normande-Béthune. Nous allons le faire en français. Alors, bonjour Jacques.
Bonjour.
Du coup, si je t'interview aujourd'hui, c'est parce que vous organisez un événement sur un célèbre personnage, surtout actuellement, qui s'appelle François Legault.
Oui, exactement.
Et en fait, l'événement s'appelle « Est-ce que la bourgeoisie a besoin de François Legault? »
Oui. On aurait pu dire, en fait, est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Puis, quand on a prévu cet événement-là, qui va avoir lieu vendredi là, à notre librairie, à la Maison Normand-Béthune, on faisait notre planification il y a quelques semaines, puis c'était avant la publication du rapport du FNO, puis c'était au moment où, bizarrement, avec la déconfiture du Parti québécois, on assistait un petit peu à une certaine remontée des libéraux, puis là, il y avait même des sondages qui disaient que s'il y avait des élections... si François Legault est là, il va être nez à nez avec Jean Charest. Et si François Legault est pas là, Jean Charest va être réélu. Puis là, on se posait la question, y a-t-il un avenir pour François Legault ou c'était juste une grosse balloune qui est déjà crevée? Est-ce que la bourgeoisie en a vraiment besoin? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un troisième parti ou d'un quatrième après les libéraux, le PQ puis l'ADQ? Là, finalement, whoop, la situation politique a beaucoup changé depuis 2-3 semaines. Puis c'est comme si les libéraux venaient de perdre ce qui leur restait de capital politique pour duper les gens. Fait que finalement, l'alternative Legault, elle revient, là, se réimpose. Fait qu'en réalité, on veut regarder c'est qui François Legault, c'est quoi son programme, qu'est-ce qu'il propose, puis c'est quoi son utilité à ce moment-ci? Son utilité, je parle pas son utilité pour nous, disons, là, pour les travailleurs, les travailleuses ou les pauvres. François Legault est d'aucune utilité, mais pour la classe dominante au Québec, qu'est-ce qu'il vient faire là? Puis ce qu'on se rend compte, puis ce que je vais défendre un peu dans la petite introduction à la soirée que je vais faire là, pour la discussion de vendredi soir, c'est que au fond, François Legault, c'est pas l'espèce de spectre qu'on nous présente un peu là, comme quelqu'un étant quelqu'un de la droite dure là, qui est beaucoup plus dangereux que le PQ ou que les libéraux. En fait, c'est une c'est une continuité des deux principaux partis qui ont gouverné l'État bourgeois au Québec depuis 1970, c'est-à-dire le Parti libéral puis le Parti québécois. Ces deux partis-là, en fait, ont à peu près le même programme. Hein. C'est un programme de nationalisme économique, d'utilisation des ressources de l'État québécois pour favoriser le développement du capital francophone au Québec, du grand capital. Et ils se distinguent par leur position sur la question nationale. Mais comme il n'y a pas de perspective de réaliser l'indépendance du Québec à court ou à moyen terme, ben Legault arrive en disant « Moi, je mets ça sur la glace pour 10 ans. » Puis, dans le fond, j'arrive avec une proposition de gouvernance qui ressemble, au fond, pas mal à ce que le PQ et les libéraux mettent de l'avant au niveau programmatique. Donc, c'est un programme de droite, là, s'il y en a qui veulent utiliser les expressions gauche-droite. On peut dire que c'est un programme de droite qui est un programme anti-populaire, anti-ouvrier, qui propose de continuer des coupures dans les services publics, qui propose de continuer d'attaquer les travailleurs et les travailleuses, qui propose de rendre la main-d'œuvre au Québec plus flexible, puis qu'à répondre encore mieux aux besoins des capitalistes. Mais c'est pas pire à la limite que les libéraux ou que le PQ. Ils jouent sur le nationalisme économique, ils jouent aussi sur le nationalisme identitaire un peu, encore là, comme le PQ le fait, comme l'ADQ le fait, en proposant, par exemple, de réduire le nombre d'immigrants et immigrantes qui devraient être accueillis par le Québec dans les prochaines années. Mais en fin de compte, c'est ni pire ni meilleur que les grands partis bourgeois qui se sont succédés depuis 40 ans maintenant à la tête de l'État québécois. La question qui se pose de base, c'est pourquoi il arrive à ce moment-ci? Ben là, c'est vraiment une question, je pense, de perte de capital politique, là, ou de capital électoral, à la limite. C'est qu'à un moment donné, à force de gouverner pour les intérêts d'une petite minorité dans une société capitaliste, ben les partis qui alternent un après l'autre au pouvoir, puis qu'à chaque fois qu'ils alternent, ils se présentent toujours comme étant la nouvelle alternative qui va faire mieux ce que l'autre fait, qui va faire quelque chose de correct pour remplacer celui qui est là, qui fait des affaires pas correctes contre le monde. Ben là, à un moment donné, ils finissent par épuiser leur capital, puis là, je pense que de moins en moins de monde qui ont confiance à ces partis-là. De moins en moins de monde qui ont confiance au système électoral aussi, à cette fausse démocratie-là qui fait qu'on vote à tous les quatre ans pour changer le personnel politique, puis ce personnel politique-là, il gouverne un système dont les fondements même profitent juste à une petite minorité. Puis ça ne changera pas en changeant le personnel politique qui est à la tête de l'État. Mais fait qu'à un moment donné, les gens commencent à voir ça, puis les gens commencent à se tanner, soit en cessant de participer ou en participant moins aux élections, en les croyant plus, en étant de plus en plus cyniques. Là, c'est ce qu'on dit, que les gens sont de plus en plus cyniques. Mais il y a des raisons à ça. C'est parce que les gens voient bien aussi que c'est cynique, la politique électorale bourgeoise. Mais là, le nouveau parti, la nouvelle figure arrive à ce moment-là avec, au fond, le même programme pour faire la même chose ou les mêmes choses, mais avec un nouveau visage pour peut-être essayer de remobiliser la population pour réintéresser les gens aux batailles électorales, tout ça. C'est un petit peu, dans le fond, la raison d'être, selon nous, de François Legault, qui, par ailleurs, n'est pas particulièrement, je pense, un personnage charismatique, là, mais mettons que les médias le présentent un peu comme ça, là, pour essayer de réintéresser les gens, dans le fond, là, qui en ont assez de charrettes puis qui ont plus le goût de voter pour le PQ non plus. Là.
Mais tout de même, il est dominant dans les sondages, quand même?
Oui, il est dominant dans les sondages, et je pense que c'est significatif du fait que il y a un fort courant dans la population de gens qui sont désabusés ou tannés de la façon dont le système fonctionne. Malheureusement, ça va se traduire par une radicalisation des luttes, par la création de nouveaux mouvements de lutte, de nouveaux mouvements sociaux, mais ce désabusement-là aussi, il n'est pas toujours canalisé. Puis là, ben effectivement, il est fort dans les sondages, d'abord parce que les médias en font beaucoup la promotion, puis les sondages reflètent l'opinion publique qui elle-même est un peu créé par l'espace médiatique occupé par ces gens-là. Mais c'est une réalité, donc en le présentant comme une alternative nouvelle, quelqu'un qui va faire les choses différemment, là, c'est bien à la mode dans le discours public de dire qu'il faut faire de la politique autrement ou différemment. Lui, il arrive avec pas une nouvelle façon de faire. Dans le fond, c'est très ancien, mais ça apparaît peut-être un peu comme nouveau parce qu'il dit que, bon, la discipline de parti, c'est mauvais, puis lui, il se présente comme une coalition, qu'il n'a pas d'ambition. Il dit, moi, je suis là pour 5 ans ou 10 ans maximum. Après ça, je prends ma retraite, puis on va dissoudre mon parti. On est là juste pour faire des vrais changements. On n'est pas là pour servir des intérêts privés, tout ça. On est là pour le bien-être collectif. Puis bon, à force de se le faire dire, bien, il y en a peut-être qui peuvent finir par le croire. Puis, de fait, il est en tête dans les sondages. On verra qu'est-ce que ça donnera éventuellement. Mais c'est pour ça qu'on en parle aussi, parce qu'on dit que c'est un piège. C'est pas vrai, c'est pas nouveau ce qu'il propose. Proposer d'utiliser l'État québécois pour favoriser le développement du grand capital, comme il propose dans son énoncé de politique économique, ben, je regrette, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Proposer de rendre le système d'éducation plus performant, mieux adapté aux besoins des entreprises, c'est pas quelque chose de nouveau non plus ça, au Québec. C'est déjà ce que le système d'éducation fait. Lui, il veut le faire encore plus et mieux. Mais c'est au fond la même orientation. Il n'y a pas vraiment de nouveauté dans. À part le visage, mais encore là. C'est vraiment un nouveau visage. Là, il a quand même été dans différents gouvernements péquistes pendant plusieurs années, ministre de l'Éducation. Différents portefeuilles aussi économiques, puis c'est bien juste parce qu'il a pris sa retraite pendant 2 ans qu'on a l'impression que c'est une nouveauté, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans.
Ouais, mais on est aussi dans un contexte, bizarrement, où aux dernières élections fédérales, les Québécois ont voté en majorité pour le NPD, ouais. Ce qui était une victoire relativement historique pour le NPD qui n'a jamais réussi à passer au Québec, ouais. Avant cette date-là. Comment tu expliques que des gens peuvent autant exprimer dans les sondages le fait, que, par exemple, qu'ils pourraient voter massivement pour une partie composée par François Legault après avoir voté pour Jack Layton et le NPD?
Disons que, à première vue, ça paraît très contradictoire, puis on pourrait être tenté d'en rire, là, mais en réalité, c'est symptomatique de l'influence que le discours public a sur les gens. C'est-à-dire que voir les élections ou un sondage comme l'expression d'une volonté populaire, c'est pas exact. En réalité, c'est une déformation. C'est l'expression de la volonté populaire telle qu'elle est forgée dans le discours public. Dans le discours public, ce qu'on nous présente depuis quelque temps, c'est qu'on est dû pour du changement, puis il y a des visages qui incarnent le changement, puis là, on présente le visage de Legault comme incarnant le changement, alors que de la même façon que les Tunes et le NPD ont incarné aussi cette volonté de changement-là. Peut-être que dans une certaine mesure, puis je dis bien juste dans une certaine mesure, là, on aurait pu être porté à se réjouir en se disant les Québécois et les Québécoises ont viré à gauche et ont voté pour le NPD. En réalité, c'est que ils ont voté pour le NPD parce que les conservateurs ne passent pas au Québec. Puis les libéraux, ben, ils traînent un discrédit depuis le scandale des commandites. Et les gens ne veulent plus voter pour eux. Puis le Bloc, ben, de toute évidence, ils avaient un peu fait leur temps. Puis ils avaient épuisé encore là eux aussi un peu leur capital électoral. Fait que là, ben, on est arrivé. Puis l'État a profité d'une grande complaisance des médias. Puis on. Lui, il incarne le changement, puis il a l'air honnête. Ben, Legault, c'est un peu la même chose. Il incarne le changement, puis il a l'air honnête. En réalité, un a un programme plus à gauche, théoriquement. L'autre a un programme plus à droite. Mais au fond, Jack Layton, il voulait être élu, il voulait être premier ministre du Canada, puis il voulait gouverner le Canada pour qui? Dans son discours, c'était pour aider les gens, ce qu'appelait les gens ordinaires, mais dans les faits, ses politiques, c'était aussi l'aide aux entreprises, des subventions aux compagnies, c'était la poursuite de la guerre en Afghanistan. Il a voté avant le déclenchement des élections pour les bombardements de l'OTAN en Libye. Fait qu'au fond, il ne démarquait pas tant que ça des autres partis. C'est pas si incohérent que ça, bizarrement, de penser que au fédéral, on a voté, je parle au Québec, là, on a voté pour le NPD, puis une bonne partie des mêmes personnes qui ont voté pour le NPD pourraient voter pour François Legault au provincial. Yep.
Et ont possiblement déjà voté pour un conservateur comme Lucien Bouchard qui s'est emparé du PQ pendant un certain nombre de temps.
Oui. pour le Bloc québécois, dirigé par Lucien Bouchard, formé par d'ex-ministres conservateurs et libéraux à son origine, puis qui est devenu le Parti nationaliste qui a hégémonisé le discours politique au Québec pendant 20 ans. C'est malheureusement la réalité. Quand on parle de cirque électoral, c'est pas juste la campagne électorale qui est ridicule avec quelques images de bouffons qui veulent qu'on vote sur la qualité de leur face sans même discuter de leur programme pendant 4 semaines. Mais c'est un système qui dépossède les gens du vrai pouvoir en les faisant voter une fois aux 4 ans, mais dans le cadre d'une campagne qui est bouffonne, mais dans le cadre d'un contexte où le discours politique, les choix qui sont proposés sont jamais analysés en termes de mais d'intérêt, de rapports sociaux, de classe, mais uniquement en termes de mais qu'est-ce qui se dit dans les journaux, puis à la télé, puis dans les médias, puis à la radio et sur Internet. Ça crée un buzz, puis le buzz devient le discours dominant. Puis à un moment donné, tout le monde se dit « Ah ben ok, Legault, il a l'air différent des autres, on va l'essayer, lui. » Mais c'est ce sentiment-là ou cette idée-là que « Hey, on pourrait peut-être l'essayer, peut-être que ça va donner de quoi. » C'est pas issu d'une réflexion, disons, basée sur l'expérience sociale, les luttes, tout ça, des gens. C'est basé sur un buzz créé dans l'opinion publique. Puis à ce niveau-là, ben Legault est aussi bon que les thunes, à la limite. Là. Présentement, il y a autant de capital électoral, si on peut dire.
Et même si tu disais que les conservateurs passent pas au Québec, on peut aussi se rappeler que le chef du Québec, le premier ministre du Québec, est un ancien conservateur aussi, qui a des politiques qui sont quand même relativement conservatrices également.
Oui, mais par contre, dont le discours se distingue un peu, mettons, ce qui ne passe pas au Québec présentement des conservateurs, je dirais que c'est même pas leur politique économique, là, mais c'est le côté plus redneck, mettons, très conservateur social, anti-avortement, tout ça, c'est ça qui ne passe pas au Québec. Puis là-dessus, Charest n'a pas la même étiquette sur le front, disons, que Harper. Mais c'est vrai qu'au fond, oui, Charest est un conservateur. Ça montre là aussi, là, au fond, la pauvreté de tout ça. Là,
c'est pas mal tout le temps qu'on avait.
Oui, OK. Mais donc, les gens intéressés à poursuivre la discussion, venez à la maison de Normand Béthune vendredi soir. C'est à 19h. Il va y avoir une courte introduction pour situer le débat, puis une discussion ensuite.
1918 rue Frontenac.
Exact.
Bien, merci beaucoup, Jacques.
Bienvenue. Salut.
Salut. Alors, c'était Jacques de la maison Normand Béthune qui présentait ce qu'il en est de François Legault et un peu aussi de tout le cirque électoral dont il disait québécois. Donc, c'est un peu ce qui conclut pour le Montréal Medico Up, parce qu'il va y avoir 2 autres entrevues aujourd'hui. Et nous voulions parler de Occupy Montréal, mais nous aurons amplement le temps d'en parler une autre fois. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.